Donc voici quelques éléments pour baliser mon intervention. Je vais d'abord donner quelques éléments sur le contexte de ce que je vais présenter. Et puis on va attaquer par le menu les relations entre régulateurs et régulés associatifs à travers l'ensemble des sujets communément abordés en matière de régulation, pour terminer enfin avec quelques conclusions. Alors le contexte, Jean-François l'a évoqué, c'est celui d'un groupe de travail au sein de l'EPRA. Un groupe de travail qui s'est donné pour mission justement d'échanger de l'information et des bonnes pratiques autour des médias locaux et associatifs. Et donc c'est un groupe de travail qui traite non seulement des radios associatives, mais aussi des télévisions associatives, des radios locales et des télévisions locales. On essaye d'aborder les enjeux de manière spécifique à chacune de ces catégories, parce que ce n'est pas toujours la même chose. Et dans ce contexte, eh bien, effectivement, nous faisons circuler des questionnaires. Et ici, les informations que je vais vous donner, eh bien, elles sont tirées de l'analyse de ces questionnaires, qui sont en fait des manières pour les régulateurs de nous faire remonter de l'information. Alors, je vais d'abord commencer par le contexte un peu supranational. Francesco l'a évoqué ce matin. Les institutions européennes, certaines ont abordé la question des médias associatifs. C'est notamment le cas ici du Parlement européen et du Conseil de l'Europe en 2008 et en 2009. Alors, il est notable de constater en fait certaines absences dans ce tableau. En particulier, le bras exécutif de l'Union européenne, qui est la Commission. Il faut quand même constater que la Commission européenne n'a jamais montré d'intérêt ni pour la radio, ni vraiment pour la radio associative. La Commission considère que la radio est une question de politique au niveau des États membres, que, étant donné que ce sont des marchés locaux au sens européen, c'est-à-dire nationaux, eh bien, la Commission n'a pas à s'en mêler. Contrairement, par exemple, à d'autres sujets, comme par exemple la transition numérique en télévision, qui, elle, a déjà été longuement discutée et balisée par cette même Commission. Donc, il y a une espèce, peut-être, de double discours au niveau de la Commission sur les questions de la radio, et la radio associative est peut-être un peu victime de ce manque d'intérêt également. Alors au niveau national, ici je vais citer la source du Community Media Forum Europe, qui avec l'aide des membres de l'EPRA l'année passée a essayé une tentative de recenser le nombre de radios associatives par pays. C'est un exercice qui est particulièrement difficile parce que, comme on l'a vu ce matin, les définitions sont diverses et multiples, et donc selon la définition que chaque pays a du concept de radio associative, il va donner des résultats parfois très, très différents. Alors ce qu'on constate quand même ici dans le tableau, c'est qu'il y a pas mal de pays où il n'y a pas grand-chose. Notamment des petits pays, notamment des pays effectivement d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est la situation un peu particulière de la France. J'aurai l'occasion d'y revenir, et sans doute qu'on aura aussi l'occasion d'y revenir plus tard dans ces journées d'études. Puisque ici on voit que c'est la France qui est championne d'Europe des radios associatives, avec 600 radios répertoriées, alors que son plus proche concurrent, les Pays-Bas, en déclare 286. Alors justement, cela nous amène à la question de la reconnaissance, la reconnaissance légale et des critères qui sont utilisés pour reconnaître des radios associatives, les distinguer du reste du paysage. Alors c'est une question qui est cruciale parce que effectivement les radios associatives Elle revendique une place à part dans le paysage, une place à part peut-être du marché, une place à part aussi du grand combat pour obtenir des fréquences. Et donc le fait de pouvoir donner à une radio une reconnaissance légale de cette distinction, de cette spécificité, est quelque chose de très important pour l'établissement, le développement et parfois la survivance aussi de radios associatives au sein d'un paysage. Alors ces critères, bon, on les a déjà abordés ce matin, ils sont assez, assez communs dans la législation quand elle existe. Donc quand les pays ont effectivement un cadre avec des critères, eh bien, ce sont les critères traditionnels qui reviennent, en particulier le caractère non lucratif de l'entreprise qui gère la radio, la spécificité à des contenus locaux, l'absence ou des restrictions en matière de publicité, le fait qu'effectivement la radio est contrôlée et gérée par des membres de la communauté à laquelle elle s'adresse. L'apport en termes de valeur ajoutée vis-à-vis de la diversité du paysage ou alors vis-à-vis simplement ce qu'on appelle le social gain au Royaume-Uni, par exemple, donc la valeur ajoutée, la plus-value sociale de l'existence du média. Et puis aussi des questions comme justement l'intérêt pour des minorités culturelles particulières. Alors, cela dit, voilà, ces critères, ils sont utilisés de manière relativement globale, avec plus ou moins d'intensité dans les pays qui reconnaissent un statut légal aux radios associatives. Mais il y a quand même des approches assez différentes. Je prends un seul exemple, c'est la question de l'approche française par rapport à l'approche de la Belgique francophone ou par rapport à l'approche du Royaume-Uni, qui ont tous les trois des approches assez différentes. Donc la France, par exemple, donc on avait dit ce matin que la Belgique et la France étaient assez proches dans leur acception du concept de radio associative. C'est toujours vrai, mais dans la manière de reconnaître, la France est par exemple très très large. Donc pour être radio associative en France, il suffit de postuler dans la bonne catégorie et d'être une ONG, donc une association au sens de la loi. Alors qu'en Belgique, non seulement effectivement il faut être un peu ça, mais en plus le régulateur opère chaque année, comme Anne l'a montré, un contrôle rigoureux sur l'ensemble des contenus pour s'assurer que la plus-value en termes de contenu est bien rencontrée et que le simple critère structurel ne suffit pas, il faut aussi un critère de contenu. Au Royaume-Uni, on a une approche là qui est davantage une approche liée à la concession et donc au contrat entre le régulateur et la radio autorisée, avec une négociation sur le contenu des engagements qui devront être respectés entre la radio et le régulateur. Donc ça, ce sont différents modèles pour approcher justement cette reconnaissance légale. Alors, un deuxième aspect, c'est la question des autorisations et des processus d'autorisation. On sait que, justement, si on ne donne pas une place à part aux radios associatives dans un processus d'autorisation, il y a des chances que ces acteurs soient discriminés négativement. Je cite par exemple un exemple. Dans les dispositions légales, il peut y avoir une clause d'évaluation qui concerne la viabilité économique. Alors, si par exemple le régulateur ne prend pas en compte le bénévolat dans son acception de la viabilité économique, eh bien, il y a un risque que les radios associatives, dans un concours de beauté ou dans un processus en tout cas concurrentiel pour obtenir des autorisations et des fréquences, il y a un risque que ces acteurs soient discriminés par rapport à des médias commerciaux. Alors évidemment, l'idéal, c'est ce que les radios associatives revendiquent un peu partout, c'est d'obtenir une procédure complètement à part du reste pour obtenir des autorisations. Donc, c'est par exemple le cas au Royaume-Uni, où je cite aussi l'exemple du Monténégro, où les radios associatives qui souhaitent obtenir une licence en tant que radio associative, ne doivent pas passer par les appels à projets, ne doivent pas passer par les appels d'offres. Il suffit qu'elles s'adressent au régulateur et, en fonction de la disponibilité de fréquences, elles peuvent en obtenir. Évidemment, si il y a d'autres cas où justement il y a pas ce dispositif d'autorisation complètement séparé, mais par contre, dans un processus unifié de distribution des ressources, il y a quand même une portion des fréquences qui est a priori réservé pour les acteurs associatifs. Donc ça, c'est une autre manière de procéder. Je pense qu'on aura des exemples ici plus tard. Alors, quand bien même, comme je le disais juste avant, dans les processus, il peut ne pas y avoir de processus décisionnel différent pour les radios associatives, mais le régulateur lui-même peut interpréter la loi d'une manière qui ne discrimine pas les radios associatives. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la viabilité économique. Il y a d'autres pays ici, comme par exemple le Danemark, qui reconnaît dans ses critères d'attribution le critère de diversité et d'apport de contribution à la diversité, ce qui fait qu'effectivement des acteurs associatifs peuvent, je veux dire, gagner des points dans un concours ou dans une procédure concurrentielle pour obtenir des fréquences. Alors, une fois qu'on est autorisé, l'étape suivante, c'est la question du cahier des charges et des obligations qui sont faites aux radios. Alors là, on constate qu'il y a des situations très diverses dans les pays européens. Simplement parce que, donc la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que les radios associatives ont plus ou moins d'obligations que le reste du paysage. Premier constat, c'est que c'est souvent fonction déjà du niveau d'exigence qu'un régulateur ou qu'un cadre légal a vis-à-vis de son paysage en général. Et il y a des pays comme en France ou comme en Belgique où il y a des cahiers des charges assez sévère à respecter, mais il y a aussi des cultures régulatoires en Europe qui sont beaucoup plus libres et qui en demandent moins aux radios. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que la plupart des régulateurs qui nous ont répondu nous disent on n'a pas vraiment allégé la charge pour les radios associatives. Au contraire, comme elles ont des privilèges qu'on leur reconnaît, un statut particulier, elles doivent rendre plus de comptes que les autres. Ces obligations ou ces contraintes spécifiques, elles sont de deux ordres. Il y a d'abord des contraintes plutôt d'ordre structurel et puis des contraintes plutôt d'ordre contenu. Alors, les contraintes d'ordre structurel, c'est par exemple justement le fait de devoir être constitué en association à but non lucratif. C'est par exemple des contraintes en termes de ressources, faire en sorte qu'effectivement les recettes publicitaires ne dépassent pas un certain pourcentage ou soient même carrément interdites. C'est aussi des questions de contrôle, donc qui contrôle l'association. Certains pays, par exemple, exigent que le contrôle s'exerce localement et que les gens qui contrôlent la radio soient établis dans sa zone de diffusion. Alors, au niveau des programmes, eh bien là, effectivement, il va y avoir des contraintes, par exemple, en termes de programmes à destination des minorités culturelles, en termes de complémentarité de ces programmes par rapport au reste du paysage, et aussi voilà, des intérêts particuliers en termes de programmes et de lignes éditoriales vers certains sujets, de nouveau ici par exemple, s'adresser aux minorités. Alors, ce qui est intéressant de voir dans ces obligations, c'est qu'elles visent en général à renforcer les radios associatives dans ce qu'elles sont déjà à la base. Et donc, c'est quand même un tout petit peu différent. Ça donne une idée intéressante des relations entre le régulateur et les radios associatives. C'est que, en général, on voit le régulateur comme plutôt un acteur qui impose des contraintes et qui limite les tendances naturelles des médias autorisés. Donc, par exemple, on va limiter la liberté publicitaire des médias commerciaux. On va imposer des limites. On va imposer des limites aussi à leur expansion en termes de pluralisme, en disant vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain seuil d'audience. Donc ça, ce sont, par rapport aux médias commerciaux, ce sont tous des éléments qui vont restreindre leur tendance naturelle. Alors que vis-à-vis des médias associatifs, on assiste plutôt à une régulation qui va dans le sens inverse, c'est-à-dire c'est une régulation qui va les encourager dans leur tendance naturelle à essayer d'en faire plus, d'en faire mieux par rapport à ce qu'elles sont à la base. Et donc évidemment, en tant que régulateur, ça nous fait du bien aussi d'être vu sous un jour plus positif. Alors évidemment, il y a également dans certains cas, et c'est le must évidemment, la question du soutien financier. Alors évidemment, c'est l'objet, c'est le fait d'une minorité d'États en Europe, donc on est loin d'une couverture complète de soutien aux radios associatives. Alors il y a en général, un financement qui est aussi un financement qui est un instrument de politique culturelle. C'est-à-dire que le financement va vraiment servir à pousser le paysage dans un sens ou dans un autre. Par exemple, au Royaume-Uni, le fonds qui alimente les radios associatives est destiné en priorité à des postes budgétaires qui vont renforcer l'autonomie financière de ces radios. Donc par exemple, les questions de collecte de fonds. Donc on va financer des postes et des actions qui permettent de renforcer l'autonomie financière de ces radios. Alors dans d'autres cas, le financement se fait de manière indirecte, à travers des intermédiaires, comme par exemple des fédérations de radio. Je pense que Céline nous en parlera pour le cas irlandais. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que parfois les fonds qui alimentent les radios associatives proviennent eux-mêmes de sources qui reflètent une certaine politique. C'est en particulier le cas du fonds d'aide à la création radiophonique en Belgique francophone, puisque, comme Anne nous l'a expliqué tout à l'heure, l'argent qui sert à aider les radios et à enrichir leur contenu et à les aider à vivre de manière plus solide provient en fait d'une fraction du chiffre d'affaires des radios commerciales et des radios publiques qui font de la publicité. Donc là, il y a une optique, je vais dire, redistributive. Alors, quand même, on constate de manière générale, et ça c'est aussi un trait spécifique aux médias associatifs, c'est que effectivement, les sources de financement sont diversifiées. Donc on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et en particulier, les autorités locales sont en général de très bons partenaires des radios associatives. Ils en ont compris la valeur et ils vont financer parfois en mettant à disposition en local. Je pense que les radios belges qui sont ici sont assez familières de cette manière de fonctionner. Et puis il y a aussi voilà, parfois des avantages qui permettent de réduire simplement les coûts. C'est par exemple l'exemption de payer des redevances en échange des concessions en termes de fréquence. C'est le cas chez nous en Belgique, c'est aussi le cas par exemple en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro qui nous ont participé à notre étude. Alors, bon, évidemment, une fois que tout ça est mis en place, voilà, il y a un quotidien entre les régulateurs et les régulés. Et là aussi, les radios associatives sont des acteurs particuliers dans ce quotidien. Il faut savoir que les régulateurs, initialement, dans la culture politique européenne, ont été créés plutôt pour tenir tête à de gros acteurs, à des multinationales, à des services publics. Et donc, ils n'ont pas été nécessairement créés pour interagir avec des petits acteurs, parfois un peu faibles, parfois mal informés sur la législation. Ils ont été plutôt créés pour dialoguer avec des services juridiques et des avocats. Alors, évidemment, donc, on a posé la question de savoir exactement comment les régulateurs géraient au quotidien les relations avec ces acteurs spécifiques. D'abord parce qu'ils sont parfois éloignés, radio locale. Donc à Bruxelles, ici, on ne va pas pouvoir capter des radios de Beaumont, par exemple. Et c'est le cas partout. Donc, il y a des régulateurs qui ont des bureaux décentralisés, c'est le cas de la France, c'est le cas du Royaume-Uni. La Bosnie aussi, bizarrement, a deux bureaux décentralisés. Et alors, en général, bon, un des outils réguliers pour contrôler, je vais dire, les radios, c'est le monitoring, donc l'écoute des programmes et leur enregistrement. Et ici, on constate que pour les radios associatives, la règle, la norme, c'est que on n'enregistre pas les radios de manière permanente, mais on leur demande de conserver des archives, et sur demande du régulateur, elle doit fournir ces archives. Alors, évidemment, les radios associatives sont aussi des petits acteurs avec peu de staff, avec peu de ressources pour dialoguer, pour interagir. Et donc là aussi, il y a le risque de perdre en fait le fil à un certain moment. Donc il faut s'assurer que il y a des réunions régulières avec les radios pour s'assurer qu'elles sont toujours bien au fait, par exemple, des évolutions en matière de législation. Bon, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en Suisse par exemple, où il y a des réunions qui sont organisées régulièrement, où les radios peuvent venir. Non seulement il n'y a parfois pas beaucoup de personnel, mais parfois il y a juste personne qui est payé, et donc des gens qui ont un job, qui ne peuvent pas par exemple être disponibles pendant les heures de bureau pour venir à des réunions. Et donc là aussi, il y a des régulateurs qui organisent des réunions le samedi, par exemple, pour s'assurer que les bénévoles peuvent se libérer. Donc ça, ce sont des choses assez précises, mais chaque fois qu'on n'en tient pas compte, on discrimine en fait ce modèle de manière négative par rapport aux autres acteurs. Et donc c'est quand même important, si un régulateur veut vraiment prendre en compte la réalité de ces médias associatifs, il doit vraiment faire attention à tous ces points. Alors heureusement, dans certains cas, il y a de l'aide, des intermédiaires entre le régulateur et les radios. Il y a plusieurs pays où des fédérations ont été créées, et ces fédérations ont plusieurs rôles. Donc elles vont d'abord permettre aux radios, offrir des services aux radios, notamment en termes de formation, en termes de renforcement des capacités, en termes de services techniques aussi parfois. Donc on mutualise une série de choses. Elles vont effectivement jouer le rôle d'intermédiaire avec, par exemple, le régulateur, où là, ce sera la fédération qui sera consultée par le régulateur pour, par exemple, donner un avis sur des évolutions législatives. Et puis, il y aura aussi une fonction de lobbying de ces fédérations pour justement porter la voix des radios associatives à tous les niveaux, par exemple au niveau des sociétés de gestion des droits d'auteur. On sait que c'est toujours très très chaud à ce niveau-là. Et évidemment, le nec plus ultra, c'est les pays où les fédérations ont un rôle légal, reconnu, voire financé, pour jouer ce rôle d'intermédiaire. On le voit en Irlande, on le voit aux Pays-Bas. J'imagine qu'on en aura plus de détails tout à l'heure. Mais effectivement, on voit que dans ces pays où des fédérations sont fortes, financées et jouent ce rôle d'intermédiaire, la valeur ajoutée pour les radios associatives elles-mêmes est énorme. Parce qu'effectivement, constellation de petites structures ne peut pas s'en sortir. Enfin, chaque petite structure isolée, surtout en radio, on est vraiment sur chaque fois des zones isolées. On n'a pas beaucoup de dialogue les uns avec les autres. Et donc, avoir un liant sous la forme d'une fédération est quelque chose qui est extrêmement, qui a beaucoup de valeur. Voilà, encore. Un petit point sur la transition numérique, on l'abordera peut-être plus en détail demain. Ici, ce qui nous intéresse, c'est justement la manière dont les radios sont prises en compte dans la transition numérique par les régulateurs. Alors déjà, au niveau radio, il y a beaucoup de régulateurs qui répondent, mais on n'a pas encore de plan bien arrêté pour la transition numérique, en radio en tout cas. Mais il y a quand même quelques exceptions et on aura sans doute ici l'exemple, puisque j'entendais même que la semaine passée il y a des annonces qui ont été faites en Suisse sur des multiplexes locaux pour des radios associatives, donc j'imagine que Marcel nous en dira quelques mots peut-être. Et donc il y a quand même quelques acteurs qui ont intégré une place pour les radios associatives dans leur planification numérique. Avec par exemple la mise en place de multiplexes locaux. La question aussi c'est de savoir est-ce que les radios sont aidées financièrement dans cette transition, et là c'est vraiment pour l'instant très très rare de voir des pays qui sont allés aussi loin dans leur réflexion. Et là on a des exemples qui restent théoriques en disant oui, on a théoriquement un fonds qui pourrait servir, mais enfin on ne l'a pas encore mobilisé. Alors évidemment des idées intéressantes, c'est que les régulateurs fonctionnent beaucoup par consultation publique, justement pour essayer de sentir les opinions et les besoins du secteur. Et là de nouveau on a parfois un fossé où les radios sont parfois pas très intéressées par ces consultations, n'y participent pas nécessairement, et quand elles y participent c'est pas toujours de gaieté de cœur, mais c'est parfois pour dénoncer justement des projets qu'elle juge trop industriels et pas du tout pensés pour elle-même. De manière assez mixte, on a demandé aux régulateurs, est-ce que vous estimez, vous percevez que les radios sont plutôt... comment percevez-vous l'attitude des radios vis-à-vis du numérique? Est-ce qu'elles considèrent ça comme une menace ou comme une opportunité? Et il y avait des sentiments très mixtes, avec à la fois des sentiments de rejet de la part des radios en disant non, c'est vraiment un projet commercial, mais certaines aussi, et parfois dans des paysages où il y a un peu plus de dialogue, où justement les radios... arrivent à comprendre éventuellement leur intérêt, mais c'est vraiment aussi une question de maturité et donc de vivacité du paysage que de bien pouvoir percevoir ces enjeux au niveau des radios. Voilà, alors quelques conclusions, mais j'ai déjà dit l'essentiel. Déjà, vous le voyez, une grande, grande diversité, à la fois des concepts, mais aussi des manières de faire. Cette diversité, on l'a souligné, c'est une richesse. Donc une uniformisation du concept de radio associative, même je pense, n'aurait pas beaucoup de sens. Mais c'est aussi une faiblesse parce qu'on l'a vu notamment au niveau transnational, par exemple. Si tout le monde peut plus ou moins se revendiquer associatif, on a un problème. Donc il y a quand même besoin d'avoir des bases communes, et ces bases communes sont nécessaires pour... notamment aller au niveau européen, faire du lobbying, ou en tout cas, je vais dire, réclamer une prise en compte adéquate. Si on n'a pas de définition commune, la prise en compte est très très compliquée, et on est un petit peu dans cette logique-là aussi, par rapport notamment à la Commission, etc. Alors, comme je disais, voilà, un manque de soutien transnational qui reflète aussi une attitude européenne d'indifférence vis-à-vis de la radio en général. Et alors quand même aussi un élément, c'est que la reconnaissance, reconnaître un statut particulier aux radios associatives, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On l'a vu parce que ça ouvre La possibilité de mener des politiques particulières, ça ouvre la possibilité de financer ces radios, mais surtout, et même quand ces deux éléments ne sont pas présents, les radios restent demandeuses d'un statut particulier, parce que la radio associative, et le concept d'association est vraiment bien à propos, repose vraiment, c'est un concept qui repose sur l'adhésion. L'adhésion des membres de la radio qui vont y contribuer, l'adhésion du public qui va peut-être accepter de faire l'effort d'aller vers ces radios alors que la norme est peut-être plus professionnelle dans les médias commerciaux. Et donc il y a vraiment un phénomène d'adhésion qui doit se produire au niveau des radios associatives pour qu'elles puissent exister, se développer. Et donc reconnaître, veux dire, avoir même une étiquette particulière, quelque chose de symbolique qui les distingue du reste, est vraiment quelque chose d'essentiel pour elle, pour exister simplement dans l'esprit des gens. Voilà. Encore une dernière chose, et ça je l'ai dit aussi, la régulation des radios associatives nous dit quelque chose sur les radios associatives, mais elle nous apprend aussi beaucoup sur nous-mêmes en tant que régulateurs, puisque la régulation des radios associatives est autant, si pas plus, une question de soutien et de développement de certains acteurs que de fixer des limites et des restrictions. Et donc, ça doit vraiment nous permettre de penser le régulateur de manière complète, y compris dans les aspects les plus positifs. Voilà, je vous remercie.
Oui. Merci Bernard pour cette analyse transversale de tous les problèmes de régulation des médias associatifs, et aussi pour un avant-goût déjà du rapport que l'EPRA produira à la fin de cette année et qui sera bien évidemment disponible sur le site de l'EPRA. Alors, avant de passer aux quatre situations nationales particulières qui vont aller un peu plus dans le détail, je voulais savoir s'il y avait peut-être des questions précises que quelqu'un souhaiterait adresser à Bernard en l'état avant qu'on passe aux situations individuelles.
Je voulais juste
Oui?
savoir quand est-ce que le DAB va vraiment être développé chez nous en Belgique.
Alors, quand est-ce que le DAB va être développé chez nous en Belgique? On abordera ça plutôt demain.
Un autre colloque pour ça, s'il vous plaît.
Et peut-être que les régulateurs sont mal placés pour répondre à cette question-là, en particulier en Belgique, puisque c'est aussi une question de politique médiatique qui dépend du gouvernement de la communauté française. Mais on pourra en discuter certainement.
Une autre question? Pour Bernard?
Oui, tout à fait. Je répète la question. Est-ce que d'autres facteurs expliquent les grandes différences qu'on a dans le schéma que j'ai montré au début? Tu fais bien de me poser la question parce que j'ai oublié de le dire. Il y a un gros impact de l'histoire, en fait. Et on voit spécifiquement, j'ai parlé des pays de l'Est où il y a peut-être moins une culture associative, mais ça découle directement de la manière dont ces paysages ont évolué après la libéralisation du bloc de l'Est, où en fait la libéralisation s'est surtout fait en faveur de, enfin, uniquement fait au niveau des médias commerciaux. Il n'y a pas du tout eu je veux dire d'influx de la société civile pour réclamer des médias associatifs, comme ça a pu l'être à la fin des années 70, début des années 80 en Belgique ou en Europe occidentale en général. Et donc effectivement, et je pense que ça, Maria Borkowska nous en parlera aussi, on a un problème de culture où dans certains pays d'Europe centrale, on n'a pas du tout. La population elle-même ne sent pas le souhait ni le désir de développer des radios associatives ou voilà.
Il n'y a pas l'influx, enfin, on a des études pour montrer qu'il n'y a pas l'influx de la population, ou c'est parce que cet influx ne serait pas forcément écouté et pris en compte par le régulateur?
Alors justement, ça c'est vraiment un débat, on pourra le développer avec elle, mais effectivement il y a des consultations publiques par exemple qui sont menées, il y a l'exemple de la Pologne, il y a l'exemple de la République tchèque aussi, où en fait le régulateur a effectivement fait tout un travail préparatoire pour essayer de d'établir quelles seraient les conditions par exemple de création d'un statut de radio associative, à travailler avec notamment des instances internationales comme le Community Media Forum ou la marque. Et puis elle arrive au stade de la consultation publique et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de répondant. Et donc là, la question est à la fois celle d'une stratégie pour approcher cette question-là dans le public, mais aussi la question de préparer le public, de voir si effectivement il y a quelque chose à faire en amont, certainement. En termes de... et ça, c'est peut-être plus le rôle des associations comme la marque ou le Community Media Forum, c'est d'essayer de, justement de voir en amont ce qui est possible pour préparer la société civile à demander ces médias.
Ok, merci. On va prendre une dernière question qui est justement une question de la marque.
Juste une observation. Moi, je pense que dans les critères, quand vous avez évoqué la question de pas de publicité, ça, je pense que c'est un débat que... passé. Je pense que la question, c'est tout simplement de n'être pas but lucratif. Il y a beaucoup d'États où la publicité reste la seule façon de viabilité pour les radios. Il y a des limitations. Même en Italie, par exemple, les radios peuvent faire jusqu'à 5% de la grille de programme, ce qui fait quand même 3 minutes par heure, qui n'est pas tout à fait insignifiant, je pense. Et donc, je pense que la question non advertisement est un peu fausse parce que non advertisement existe là où il y a des fonds pour les radios, là où il n'y a pas de fonds pour les radios ne font advertisement.
Oui, bien entendu. Donc ici, tu soulignais, je répète hein, pour la traduction, le fait que l'absence totale de publicité n'est pas une réalité. Ça existe quand même. Donc je l'ai listé dans les critères, mais effectivement, en général, l'obligation, en tout cas le critère. N'est pas l'absence totale de publicité, mais plutôt une forme de limitation.
Ok, merci Bernard.